Mais justement, tiens, on va commencer en parlant avec nos invités. On va commencer à évoquer la canicule. Charles Consigny dans le Signe Consigny, bonsoir.
Bonsoir.
Et Aurélien Pradier, député non inscrit du Lot, bonsoir.
Bonsoir.
Ça doit cogner dans le Lot, là, en ce moment. Enfin, vous n'êtes pas en vigilance, vous êtes
si,
en vigilance rouge.
Si, justement, en vigilance rouge depuis déjà quelques jours. On a organisé, y compris mon école à la Bastide-Murat hier. Nous, les enfants sont scolarisés, ils continuent à l'être.
Il y a de la clim dans l'école ou pas ?
Il n'y a pas de clim dans l'école, mais il y a la clim dans la mairie, donc on a une grande salle dans laquelle on accueille les enfants. Enfin, on s'est organisé, quoi. Voilà, tout simplement. Ce qui est pas
Et
si
qu'est-ce que vous pensez du débat 1800 écoles fermées, clim, pas clim, les oppositions politiques sur on n'a pas planifié, il faut planifier. Ça brasse de l'air, ça brasse du vent, c'est un débat utile ou pas alors?
Je vais vous dire les choses comme je les pense. Je pense qu'on est chez les dingos.
Il fait 39 à Cahors en ce moment.
Il fait 39 à Cahors. On se demande aujourd'hui si on va climatiser les salles de classe en se disant que la meilleure option, c'est sûrement de renvoyer les gamins chez eux. Mm-hmm. Vous voyez quand même la situation. C'est-à-dire qu'on a un pic de canicule et on renvoie des milliers de gamins chez eux sans se demander comment les parents s'organisent, sans se demander les conséquences, y compris sur l'activité économique. Enfin, je le redis, mais y compris cet après-midi à l'Assemblée nationale, nous débattions de l'opportunité ou pas de climatiser des écoles. On est chez les fous. Évidemment qu'il faut climatiser les écoles. C'est le béaba de l'urgence, de la gestion, et nous ne devrions même pas avoir besoin d'en débattre. Voilà, tout simplement.
Il y a des hôpitaux qui ne sont pas climatisés.
Il y a des hôpitaux qui ne sont pas climatisés.
35 degrés.
On a eu les débats sur les EHPAD. Vous vous souvenez de la canicule, la dernière, qui a fait des ravages. On a une seule pièce climatisée dans les EHPAD.
Donc il devrait y avoir un consensus, mais c'est pas possible.
Mais c'est, oui, on ne devrait même pas.
Vous avez entendu tout à l'heure.
Nous ne devrions même pas avoir besoin de ce débat-là. Qu'on ait un débat général sur le changement climatique, évidemment. Mais là, il s'agit de la gestion de bon sens. Juste de la gestion de bon sens. Et s'il y a encore des dingos pour vouloir faire de l'idéologie sur la question des climatiseurs, je le redis, c'est qu'on est chez les fous.
Cher Consigny.
Non, je suis d'accord. Je pense qu'il est quand même grand temps maintenant de sortir de la logique de l'exception. Ça fait maintenant, ça doit faire 10 ans ou 15 ans où moi j'ai quasiment toujours connu des étés caniculaires et des hivers avec de la neige, du verglas, des froids exceptionnels, etc. Or, à chaque fois, chaque année, on a l'impression que c'est pour la première fois, oulala, il fait 40 degrés dans telle ville, oulala, on va devoir fermer les écoles, etc. On a l'impression que c'est exceptionnel. Je pense qu'il faut, maintenant, même si ça fait pas plaisir, il faut passer à la logique de la régularité, c'est-à-dire que ça va nous arriver maintenant tous les ans, on voit que ça arrive de plus en plus tôt, et donc il faut s'adapter. Il y a un blocage psychologique dans la classe politique, parce que la gauche et les écolos, d'abord refusent la clim pour des raisons idéologiques, refusent en fait l'adaptation au réchauffement climatique parce qu'elles voudraient qu'on reste sur la manière d'enrayer le réchauffement climatique. On voit bien leurs propositions sur l'avion. J'entendais il n'y a pas très longtemps David Béliard, le maire du 11e arrondissement, il expliquait qu'il fallait plus prendre l'avion, en gros. Donc il y a toute une partie de la classe politique qui voudrait en fait qu'à l'échelle de la France, on lutte tout seul contre le réchauffement climatique et que du coup, il n'y ait pas forcément besoin de s'adapter. Et en fait, on comprend que eux, ils vivent comme un aveu d'échec sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation. Moi, je pense qu'on peut faire les deux.
Oui, non seulement on peut faire les deux, vous avez raison de dire que derrière les positions idéologiques de certains se cache la volonté aussi de mettre à l'arrêt le pays. Il n'y a que idéologiquement, chez certains écologistes, il y a cette idée de décroissance qui consiste à dire, eh bien, écoutez, si pendant quelques jours le pays est à l'arrêt, c'est pas si grave. Ce qui d'ailleurs idéologiquement est fou, parce que tous les enfants là qui vont être sortis de l'école parce qu'on n'est pas capable de les accueillir, pour certains milieux plus favorisés, on va pouvoir accueillir ces enfants à la maison, peut-être même leur faire quelques devoirs. Mais pour les enfants les plus défavorisés, le fait que l'école de la République soit fermée, c'est une perte de chance. Mais si nous allons au fond des choses, au-delà du seul sujet des climatiseurs, qu'est-ce qui aujourd'hui met en panique les pouvoirs publics dans le pays avec la question de la canicule? C'est la question de nos capacités hospitalières à gérer une crise d'urgence.
Pas avoir des milliers de morts comme on a vu en 2015.
Et c'est ça qui est dramatique, c'est que désormais, tous nos services publics, y compris les plus fondamentaux, fonctionnent en permanence en mode dégradé.
Oui, mais pourquoi?
En permanence.
Enfin, on est dans un pays qui est suradministré, qui n'arrive pas à planifier, à réparer et à apprendre de ses erreurs. Enfin,
mais vous voyez, sur ce sujet-là, comme sur tous les autres sujets politiques, moi je pense profondément que nous sommes à une fin d'époque. À une fin d'époque institutionnelle, à une fin d'époque économique dans le modèle qu'on a pu connaître, à une fin d'époque institutionnelle et organisationnelle. Et donc, tous les symptômes sont là. Tout craque. Aujourd'hui, la crise que nous connaissons sur un épisode caniculaire, c'est un petit symptôme d'un effondrement plus général du pays. Nous sommes la 7e puissance mondiale. Nous sommes considérés comme tels et on n'est pas foutu, pardon, d'être brutal, on n'est pas foutu de gérer une semaine de crise caniculaire. Et le sujet, c'est pas seulement la canicule. Le sujet, je le redis, sur nos établissements hospitaliers, c'est l'organisation hospitalière dans son ensemble, qu'on a dégradé.
Puisqu'on parle de la gestion hospitalière et de notre administration, le dernier exemple en dramatique, c'est l'affaire Liana. C'est la mort de la petite Liana, 11 ans. On a entendu le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prononcer les premières sanctions contre des magistrats et deux gendarmes. Et puis, il y a les enseignements en tirés, il y a les manifestations des féministes pour dire « Stop, on ne veut plus de ces violences faites aux femmes, on ne veut plus de ces violences faites aux enfants. Il y a une loi qui s'appelle la loi intégrale, il faut qu'elle soit portée. » Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit aujourd'hui Sébastien Lecornu, le Premier ministre.
La semaine du 20 juillet, nous réunirons l'ensemble des présidents de groupe pour travailler sur ce sujet, ce qui permettra, Monsieur le Président Vallaud, de saisir là où les commissions, c'est votre affaire, ici même à l'Assemblée nationale au mois de septembre, et je provisionne du temps du gouvernement avant le PLF, au début du mois d'octobre, pour permettre de discuter du texte ainsi travaillé, ainsi construit, avec, ne nous trompons pas, énormément de travail cet été pour arriver à quelque chose qui soit au fond, à la hauteur de ce qu'attendent un certain nombre d'acteurs.
Alors, cette loi intégrale, elle est portée par 150 associations. C'est un projet qui veut une justice spécialisée, qui veut améliorer les dépôts de plaintes, mobiliser un budget à minima, qui est un budget de 344 millions. Le texte prévoit 2,5 milliards d'euros annuels pour indemniser les victimes. Est-ce que c'est une bonne réponse, cette loi intégrale, ou pas? Ou c'est plutôt une question d'administration, parce que le code pénal répond à tout?
Exactement, c'est-à-dire que moi je pense que on croit toujours en France qu'on va résoudre tous les problèmes avec des lois. On n'arrête pas, dès qu'il y a un drame, de faire des lois, et après, les lois sont pas toujours appliquées. Moi, honnêtement, si ça peut traduire un peu plus de volontarisme, etc., why not? Mais le vrai sujet, à mon sens, n'est pas du tout celui-là. Le vrai sujet, c'est que on a un budget de l'État régalien qui est très faible par rapport au budget de la protection sociale au sens large, les retraites, la sécurité sociale, l'assurance chômage, que tant qu'on fait ce choix de mettre en réalité tout l'argent public sur la protection sociale, on ne peut pas demander au volet régalien d'être efficace. Et ensuite, c'est ce qu'on disait sur la canicule, mais effectivement, c'est valable sur tous les sujets. Il y a une espèce de démobilisation. Et sur la justice singulièrement, il y a eu l'idée qui, heureusement, est battue en brèche par la population elle-même, qui est qu'au fond, nous n'avions plus de service public de la justice. C'est-à-dire que on s'était, au fond, rendu à l'idée que, avant d'obtenir une décision de justice satisfaisante, eh ben, il fallait soit avoir beaucoup de chance, soit éventuellement avoir beaucoup de moyens, mais que globalement, on avait affaire à un système qui tenait plus debout, qui fonctionnait plus. Et donc, moi, je pense que le problème, il est surtout dans la volonté politique et dans la mobilisation des agents publics qui sont en charge du service public de la justice. Mais il faut voir une chose, et je termine par là, c'est que la justice pénale, comme la justice civile d'ailleurs, mais la justice pénale c'est plus grave parce que ça aboutit à ce genre de drame, elle est extrêmement engorgée dans l'ensemble. Sauf que, donc c'est surtout un problème de volume de cas à traiter, de budget, mais sauf que dans le cas d'espèce, c'était pas un sujet d'engorgement, non. C'était un sujet de démobilisation,
d'appréciation des agents
le terrain. Donc si tout ça peut remobiliser, c'est bien, mais ça montre d'ailleurs, ça montre que les politiques pour le coup servent à quelque chose quand ils mobilisent le système.
C'est-à-dire il faut beaucoup d'émotions, beaucoup de colère pour arriver à répondre correctement.
D'abord, c'est pas un sujet nouveau. Ça a été ma première pas fierté, mais mon premier grand souvenir à l'Assemblée nationale lorsque j'ai été élu député, en 2019, j'ai porté une loi qui a été adoptée à l'unanimité, qui notamment a généralisé le bracelet anti-rapprochement, qui était en attente depuis des années, qui a accéléré le délai des ordonnances de protection, etc., etc. Et cette loi, je l'ai faite voter à l'unanimité, c'était en 2019. Et à l'époque, on a fait un pas gigantesque. En 2022, je fais voter une nouvelle loi pour la création d'une juridiction spécialisée. Ce dont nous parlons là, voter en première lecture à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement. Un des gouvernements d'Emmanuel Macron. 2022, c'est pas si vieux. Cette loi-là, elle n'est pas allée au-delà de la première lecture à l'Assemblée nationale. Donc c'est un sujet ancien. Et là où j'adhère à une partie de ce que les associations disent, c'est que on ne peut pas se satisfaire seulement de détecter des anomalies individuelles. Nous avons un double sujet dans notre civilisation, qui est à la fois celui des violences intrafamiliales à l'égard des femmes et des hommes, au sein de la cellule familiale,
et des enfants,
qui jusque-là protégeait, et de prédation à l'égard des enfants. Nous avons des volumes aujourd'hui gigantesques de phénomènes de prédation, y compris organisés envers les enfants. Les réseaux sociaux étant devenus de nouveaux outils, de nouvelles plateformes pour cela.
Et on l'a vu avec le périscolaire à Paris.
Bien sûr, et on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est un phénomène de société. D'une société contemporaine, consumériste, dans laquelle tout se consomme, pardon d'être aussi violent et brutal, y compris parfois les enfants et toute forme de sexualité, y compris les plus insupportables. Et nous devons avoir ce regard-là. Pour ce qui est de la loi en question.
La loi intégrale. Est-ce qu'elle y répond ou pas?
Je ne sais toujours pas.
Les associations féministes vont être satisfaites.
Je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Et pour tout vous dire, après notre discussion, je serai à Matignon pour en discuter. La juridiction spécialisée, je l'ai portée et je pense qu'elle est nécessaire parce qu'elle a été notamment portée en Espagne, elle a été efficace. Il faut des moyens supplémentaires, c'est vrai. Mais voyez bien l'artifice. Tout à l'heure, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a confondu ou associé deux sujets. Le risque de motion de censure et la loi intégrale. Presque comme une espèce de chantage politique. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux dans ce moment, c'est qu'on va rentrer dans une phase où le gouvernement va avoir comme obsession, comme il l'a depuis quelques mois, de se sauver, quel que soit le coût. Sauf que le sujet est si grave qu'on ne pourra pas couper à des mesures fortes. La juridiction spécialisée, je pense qu'elle est fondamentale. Y compris pour faire l'instruction et pour faire le jugement, et pour associer le pouvoir civil et le pouvoir pénal. Charles Consigny, vous êtes avocat, je vais vous donner un exemple très concret. Le bracelet anti-rapprochement, qui est un outil qui a sauvé des milliers de femmes depuis la loi de 2019.
Il n'en a pas suffisamment. Hein.
Non. Mais nous avons un sujet, c'est que ce bracelet, il est décidé par un juge civil. Ce juge civil, il n'a pas de pouvoir coercitif sur le prévenu. Il ne peut pas lui imposer le bracelet. Il ne peut porter le bracelet que s'il est d'accord pour le faire. Quelques menaces, mais c'est très superficiel. Il faut une juridiction spécialisée pour que ce soit un juge pénal qui délivre ce bracelet. Tout ça, ça peut paraître un peu technique, mais c'est fondamental si on veut vraiment protéger.
Oui, mais il me semble que vous faites un peu l'impasse sur l'aspect budgétaire des choses et sur la répartition entre le budget de la justice, c'est 10 milliards d'euros, le budget de la protection sociale, c'est 650 milliards d'euros. Je vous entends de temps en temps, vous êtes plutôt sur la ligne d'une droite dite sociale. En tout cas, j'ai plutôt l'impression que c'est ça votre j'allais dire votre créneau, mais c'est un peu
vous
trivial.
Vous étiez contre la réforme des retraites, je le rappelle.
Vous étiez contre la réforme des retraites, par exemple.
Cette réforme de retraite inopérante.
Honnêtement, je pense pas qu'on puisse, par exemple, s'opposer à la dernière réforme des retraites et en même temps dire que on va mieux traiter la question des violences sexuelles. Je pense qu'on doit faire des choix dans ce pays à un moment donné. On peut pas à la fois rester un pays où on biberonne tout le monde à l'argent public et en même temps un pays qui veut avoir la meilleure justice et la meilleure police du monde.
Nous sommes d'accord, mais je veux éclaircir.
Être plus clair et faire des choix tranchés.
Nous pouvons être très clairs. Je vous invite à ne pas céder à la facilité. Vous n'y cédez pas en général, n'y cédez pas cette fois-ci. La dernière réforme des retraites a été financièrement inopérante, absolument inopérante. Et à l'époque, je disais, ce que d'ailleurs tout le monde dit désormais, c'est que si nous voulions faire une vraie réforme, il fallait la faire totalement, notamment une réforme qui privilégiait la durée de cotisation sur l'âge légal. Je le disais à l'époque, tout le monde le dit aujourd'hui.
Plus d'âge légal, vous n'êtes plus pour
l'âge
légal.
Non, je suis favorable à la durée de cotisation. Je l'ai toujours été. Mais pourquoi est-ce que je donne cet exemple-là ?
Et de la capitalisation ?
Oui, mais l'un va avec l'autre en réalité. Et c'est ce que je disais à l'époque. Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez plus réformer ce pays à moitié, sur tous les sujets. Depuis les retraites jusqu'à la protection de nos enfants, il faut tout reprendre à la base. Et je fais partie de ceux qui parfois passent un peu pour des uluberlus, parce que je dis désormais c'est tout ou rien. J'en ai marre de me satisfaire de petits pas qui ne sont que des manières
regardez,
de reculer.
La réforme qu'avait fait Sarkozy de passer de 62 à 64 ans, elle avait fait gagner énormément d'argent aux caisses de retraite, de mémoire 20 milliards d'euros.
Un peu moins que ça, quasiment la moitié. Mais elle a été opérante à une époque qui n'est plus celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes arrivés au bout du rouleau,
Il n'y a plus du tout de réforme des retraites.
Eh bien, c'est pour ça qu'il faudra la refaire totalement. Moi, je suis désolé, mais je ne me suis pas engagé en politique, ni même vous d'ailleurs, je le crois, pour me satisfaire de la gestion de la misère.
D'accord, sauf que là, les deux formations politiques qui apparemment sont en tête des sondages dans la perspective de la présidentielle, il y en a une, la gauche, la France insoumise, qui veut revenir à la retraite à 62 et même à 60 ans, et puis vous avez le Rassemblement national qui est très ambigu sur la retraite, qui n'est pas clair. Donc la perspective à ce moment-là pour sauver le système ou réformer le système,
mais c'est précisément parce que au milieu, plus personne n'a l'ambition de changer la vie de nos concitoyens, que entre le Rassemblement national et la France insoumise, vous n'avez qu'un agrégat de gestionnaires de la misère, que les deux polarités se renforcent comme elles se renforcent. Le jour où il y aura, au milieu des révolutionnaires, des femmes et des hommes qui enfin disent désormais on va faire table rase de tout ce qui ne fonctionne
pas. Oui, mais quelle révolution
vous dégonflerez. Que ça vous fait élire.
Quelle révolution ? Une
vous
révolution savez, libérale, une révolution.
Mais vous mettez les mots à la minelle avec la tronçonneuse.
Oui, ben si vous voulez, on peut utiliser tous les mots gadget que l'on
non,
veut.
Non, c'est pas
moi,
gadget.
Ce à quoi je crois.
C'est bien de dire une révolution, mais il faut savoir dans quel sens elle va.
Parce que Emmanuel Macron a écrit révolution.
Oui. Ouais.
Il a déçu beaucoup. Mais Mélenchon, il veut une révolution aussi dans son genre.
Alors je vais préciser. Vous avez raison. Je vais préciser. D'abord, je veux rappeler que les gaullistes ont toujours été des révolutionnaires. Que à la fin de la IVe République, sans remonter dans notre histoire trop ancienne, ceux qui voulaient faire sauter ce qui ne marchait pas, c'était les gaullistes. Les gaullistes n'ont jamais été des conservateurs du système, comme aujourd'hui certains à droite le sont. Les gaullistes ne sont pas des trouillards. Et donc je ne considère pas être un trouillard. Pour moi, la seule révolution qui vaille aujourd'hui, c'est une révolution qui est capable de protéger nos concitoyens. Vous avez raison de dire que nous devons recibler l'essentiel des moyens sur la protection de nos concitoyens, y compris de nos enfants. Vous avez raison de dire que sur le système social, nous devons redonner plus de liberté. Et pour moi, la clé, c'est la question de la valorisation du travail. Ça vous paraît bateau de le dire, mais le cœur du sujet, c'est le salaire. Le vrai salaire.
Le salaire, il est notamment impacté par les charges qui financent les retraites.
Eh bien, voilà les débats qu'il faut que nous ayons.
Il faut savoir ce qu'on veut faire.
C'est ce qui viendra dans les mois qui viennent.
Ce sera Aurélien Pradier 2027, vous allez y aller, vous aussi.
Oui, vous voyez quand même que...
En novembre...
Non, Charles Consigny...
Parce que tous les soirs, on a quelqu'un qui nous donne une échéance cet automne. À l'automne, on aura 200 candidats.
En effet, et je ne ferai pas partie des 200... candidats ridicules qui, pour se faire mousser, vont annoncer qu'ils sont candidats en 2027.
Mais vous en avez choisi un ?
Non, j'en ai choisi aucun parce qu'il n'y a aucun potable. Voilà, c'est tout. Et donc, il va falloir construire autre chose d'ici 2027.
Un peu de dignité, donc, du coup, c'est ce que vous demandez, c'est le titre de votre livre.
Beaucoup de dignité, livre dans lequel sont rassemblées d'ailleurs des personnalités très différentes qui, peut-être ici ou ailleurs, pour 2027, peuvent fabriquer autre chose que le scénario... que les scénarios misérables auxquels on est confronté aujourd'hui.
Merci d'être venu débattre avec Charles Consigny. Merci, monsieur le député Pradier.